Vous écoutez les Nuits de France Culture. Rebonsoir, Mia Hansenlove.
Bonsoir.
Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de votre nuit rêvée, une nuit d'archives radiophoniques que nous avons choisie sur vos suggestions, des émissions qui font écho à vos films, à vos goûts, aux personnalités qui vous inspirent. Depuis le début de la nuit, on a ainsi pu écouter Annie Ernaux qui s'entretenait avec Alain Weinstein en 2001, juste après l'apparition de son livre « Se perdre ». On a entendu Humbert Balzan, le producteur de cinéma dont vous nous avez dit tout à l'heure à quel point il avait compté dans votre parcours. On l'écoutait dans un entretien accordé à Serge Danet pour Microfilm en 1987. Et puis à l'instant, une émission consacrée à la trilogie d'Apu, les trois premiers films de Satyajit Ray qui résonnent avec votre tout dernier film sorti en salle, Maya, tourné en grande partie en Inde et qui sortira en DVD dans 10 jours, très exactement. L'un des tout premiers noms que vous m'avez cité lorsqu'on a préparé cette nuit, Mia Hansenlove, c'est celui d'Anne-Marie Schwarzenbach, journaliste, photographe, écrivain, née en 1908 et morte à Zurich en 1942. On écoutera tout à l'heure, pour conclure la nuit, le portrait que Vinciane Meuchler et Ghislaine David lui avaient consacré l'an dernier pour l'émission Une vie, une œuvre. Anne-Marie Schwarzenbach a fui son milieu d'origine, sa famille de riches industriels zurichois, pour parcourir et photographier le monde, de la Russie à la Perse, des États-Unis au Proche-Orient, au cours d'une vie marquée par des passions amoureuses intenses, avec Arsène Maculers notamment, par l'écriture et par la dépendance à la morphine. Aussi, vous êtes, je crois, en train d'écrire un projet autour d'elle. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous l'avez découverte et qu'est-ce qui vous a donné envie d'en faire le sujet d'un prochain projet ?
La première fois que j'ai entendu parler de Anne-Marie Schwarzenbach, oui, c'était, je crois, il y a presque 15 ans, à l'occasion de la parution d'un de ses livres, un récit de voyage, le voyage qu'elle a fait avec Ella Maillard en 1939 jusqu'à Kaboul. Les deux femmes, Ella Maillard, donc autre voyageuse suisse très connue qui a fait ce périple avec Anne-Marie Schwarzenbach. Ils sont partis dans une Ford et ces deux femmes seules ont traversé l'Europe, la Turquie, l'Iran, enfin jusqu'en Afghanistan. Et Anne-Marie Schwarzenbach a fait le récit de ce voyage à travers une série de textes qui sont au croisement du journalisme et de la poésie. Et j'ai été éblouie par ces textes et s'en est suivie une curiosité qui m'a conduit à lire ses autres textes, mais aussi sa biographie. Il y a quelque chose chez elle qui n'a cessé de me fasciner, de me hanter depuis. Bien sûr, son parcours, sa vie tragique, mais aussi la mélancolie très particulière qu'elle incarne, qui est pour moi comme la quintessence au fond de ce qui m'a toujours attirée ou aimantée, enfin y compris au cinéma. Peut-être ça a à voir avec mes certaines origines côté disons du côté germanico-danois de ma famille et d'une autre forme de mélancolie.
Du côté de votre père.
Du côté de mon père, toujours une mélancolie dont j'ai l'impression d'avoir hérité moi-même et que j'interroge film après film sous des angles différents. Et c'est comme si, pour moi, Anne-Marie Schwarzenbach incarnait cette mélancolie à travers, bien sûr, une autre histoire, un autre destin qui me permettrait de comprendre l'histoire de ma famille, bizarrement, d'une façon très différente, mais aussi de relire l'histoire de l'Europe à travers son histoire qui peut paraître à la fois marginale, en avance sur son temps, et en même temps, elle a fait partie des premiers résistants au nazisme, enfin des premiers antifascistes.
Alors même que sa famille était plutôt du côté des sympathisants
nazis.
Alors
même que sa famille était une famille, c'était des riches industriels de Zurich, ultra conservateurs et qui n'ont pas caché leur sympathie pro-nazi. C'était des personnes qui regrettaient, enfin du côté de sa mère en particulier, amèrement la Grande Prusse, etc. Et elle a eu une clairvoyance d'autant plus admirable dans ce contexte. Et donc c'était quelqu'un qui était déchiré entre, d'un côté, sa lucidité politique, son désir d'engagement, son courage politique, et puis d'un autre côté, une grande mélancolie qui l'empêchait d'agir comme elle aurait voulu le faire, et des penchants autodestructeurs qui allaient à l'encontre de sa volonté politique. Et donc il y a ce tiraillement toute sa vie. Voilà, ce sont des thèmes qui me hante. Et au-delà de tous ces thèmes et de cette histoire elle-même, il y a sa présence physique qui les vaut tous. Enfin, je veux dire, qui est pour moi essentiel, en tout cas en termes de cinéma.
Son magnifique.
C'était une très très belle femme et qui incarnait physiquement, enfin dont l'apparence physique était l'incarnation de son intériorité. Enfin, c'est assez fascinant à quel point son visage, son regard, même sa silhouette raconte ce qu'elle est de façon transparente. Donc pour toutes ces raisons, oui, je rêve de faire un jour. Un film, en l'occurrence, c'est un projet de mini-série qui est un peu fou et sans doute pas très réalisable aujourd'hui, mais c'est pas grave parce que c'est pour moi le projet d'une vie et même si ça devait jamais se faire, il y a quelque chose d'incroyablement enrichissant et même stimulant à me plonger là-dedans. Ce qui m'intéressait aussi au départ chez elle, c'est sa proximité avec Klaus Mann, le fils de Thomas Mann, dont j'avais lu certains des livres. Autre figure qui m'a fascinée depuis que je l'ai découvert quand j'avais 18 ans grâce à mes études d'allemand. Et du coup, voilà, le fait que ça rejoigne aussi le destin, enfin la question du destin de Klaus Mann, enfant du grand écrivain qui a eu à porter ça, et c'était très lourd sur ses épaules, et en même temps quelqu'un aussi de très courageux et de très lucide, plus que son père d'ailleurs au départ, face à la montée du nazisme. Enfin voilà, pour toutes ces raisons, je tourne autour de ce sujet depuis 10-15 ans maintenant.
Pour ouvrir la seconde partie de votre nuit rêvée, on écoutera une émission consacrée à la French Touch, expression qui désigne cette génération de musiciens français qui ont rencontré un succès mondial et assez inattendu dans les années 90, en faisant une musique électronique qui allait de la techno à la house, en passant par le garage. Daniel Coe, en 1999, dans le cadre d'une série d'émissions sur la techno, avait consacré un volet à ce mouvement. Il avait reçu Jean-Philippe Renoux, qui est auteur d'un livre sur la musique techno, émission dans laquelle on entendait les témoignages de Laurent Garnier et de Thomas Bangalter, des Daft Punk. Thomas Bangalter, qui est l'un des personnages que l'on voit incarné dans le domaine de la fiction dans votre film Eden, qui était sorti en 2014 et qui racontait 20 années de la vie d'un jeune DJ français interprété par Félix de Givry, un film que vous avez écrit avec votre frère Sven et qui s'inspirait de son parcours de DJ à lui. Il a été membre de ce duo qui s'appelait Cheers et qui a été l'un des acteurs de ce moment musical, si on peut dire. Comment était née l'envie de faire du parcours de votre frère le sujet d'un film, de ce film Eden à l'époque?
Je crois qu'il y a eu deux choses. D'une part, le sentiment que mon frère Sven était arrivé au bout de ce parcours, qu'il était à un moment, comment dire, à un tournant dans sa vie. Et que du coup, c'était le bon moment pour lui de revenir sur ces années-là. C'est-à-dire qu'il était, il avait encore un pied dedans, il était encore suffisamment dedans pour pouvoir, il aurait pu être complètement détaché, avoir une distance qui lui aurait plus permis de vouloir s'y replonger. Mais il était encore dedans et en même temps il y avait la volonté chez lui de sortir de ce monde, de s'en émanciper. Il commençait à vouloir écrire un livre et il a d'ailleurs écrit depuis son premier roman. Et donc j'avais en tout cas le sentiment qu'il était au bout de quelque chose et c'était intéressant pour moi et inspirant d'accompagner ce moment à travers l'écriture d'un film à deux, chose aussi qui représentait une sorte peut-être d'idéal pour moi. Et puis l'autre chose, c'était le fait que je me suis posé la question, après avoir fait Un amour de jeunesse, du collectif, c'est-à-dire que Un amour de jeunesse racontait à travers une fiction une histoire qui aurait pu être la mienne d'une façon, d'un point de vue très intime. Ça ne racontait pas ma génération, ça ne racontait pas mon époque, ça racontait une histoire sentimentale très proche de la mienne qui m'avait conduite à devenir cinéaste. Et je crois que je pourrais le résumer dans la remarque que m'avait fait un ami après avoir vu mon film, qui m'avait dit, mais ta jeunesse, ton adolescence, c'était pas seulement cette histoire, c'était pas seulement ce garçon, souviens-toi aussi de nos soirées au Queen. Et c'est vrai que c'est comme s'il y avait tout un pan de ce qu'avait été mon adolescence que j'avais éludé, alors que c'était un pan en fait fondamental. C'était une des choses qui m'avait donné le plus de joie et d'énergie pendant mon adolescence, mais j'aurais pas pu le raconter du point de vue qui était le mien au fond, parce que ça, je crois que ça aurait été beaucoup trop trop anecdotique, où j'étais là comme témoin, mais je n'ai joué aucun rôle dans cette histoire. En revanche, mon frère, lui, a joué un rôle central. Et certes, il a connu beaucoup de difficultés. Ça a été une histoire assez douloureuse pour lui, au final, qui n'est pas faite que de succès. Mais au fond, je trouve que c'est ça qui la rend intéressante. Moi, ça, je crois que ça ne m'intéresserait jamais complètement de raconter juste une simple success story. Enfin, il y a sûrement des choses, qui peuvent. C'est très séduisant, sûrement, pour beaucoup de gens de voir ce genre d'histoire. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse au cinéma. Je suis toujours plutôt du côté de ceux qui ont des parcours plus compliqués, plus ambigus. Qu'on peut trouver plus sombre par moment, mais de trouver du sens là-dedans m'intéresse plus que de trouver du sens dans ce qui paraît évidemment en avoir de façon éclatante, quoi. Le fait que cette histoire soit ambivalente et qu'il y ait des hauts et des bas contribuait à me la rendre intéressante, pertinente. Voilà, ce sont ces deux choses, enfin le parcours de mon frère à ce moment-là, et puis le sentiment qu'à travers son histoire, il y avait l'histoire d'une génération. Ce sont ces deux choses qui se sont rassemblées, qui ont fait Eden.
Corridum, 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 ma darlin, corridum, ma de. Corridum, 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 ma darlin, corridum, ma de. Laidum, ma dear, and then your ear. To help you close your eye, I'll sing a song, a slumber song, a miner's lullaby. Corridum, 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 my darling, corridum, buddy. Corridum, 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 ma darlin, corridum, ma de. Your daddy's doon the mine, ma darlin, doon, and the car'll be mine. Your daddy's howkin call, my darling, far as in we win. Corridum, 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 my darling, corridum, my dear. Corridum, 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 my darling, corridum, my dear. There's darkness down the mine, my darling, darkness, dust and damp. But we must hay, or heat or light, or fire and or lamp.
Matt McGinn, qui interprète Corridum, pour ceux qui ont vu votre premier long métrage Tout est pardonné, Mia Hansen Love, on se souvient que c'était l'une des chansons qui faisait la bande originale du film. Les musiques ont toujours un rôle très très important dans vos films et restent souvent dans la tête après la vision des films. Voilà, cette chanson pour montrer que la variété des musiques que vous utilisez, en l'occurrence une berceuse, très belle berceuse. Vous m'avez parlé beaucoup de musique quand on a préparé cette nuit, mais aussi vous m'avez cité beaucoup de peintres, notamment des peintres américains, Vijay Selmins, Agnès Martin notamment, et puis David Hockney. On a fini par choisir un entretien de David Hockney qu'il avait accordé à Laura Adler en 2011. Il était alors de passage à Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire l'importance peut-être de David Hockney comme source d'inspiration ou pas d'ailleurs pour votre travail de cinéaste? Et puis de façon générale, est-ce que la peinture c'est une source d'inspiration? Est-ce que c'est un matériau que vous avez en tête quand vous écrivez, quand vous tournez? Est-ce que vous vous y reportez beaucoup?
Oui, peut-être plus même que le cinéma. Ça ne veut pas dire que c'est plus important pour moi, mais peut-être que comme c'est un autre domaine et que c'est d'une nature malgré tout très différente, même si on peut trouver des qualités picturales à un film ou à une image ou à un plan, mais c'est quand même d'une nature différente. Du coup, finalement, je suis peut-être plus à l'aise pour me reporter à la peinture quand je fais des films, parce que je sais que ce sera jamais littéral. J'aime pas l'idée de la littéralité des références. Par exemple, refaire un plan comme on a aimé tel plan dans un film, donc on va refaire un plan, on va lui piquer des idées. Bon, ça, c'est pas du tout une chose qui me stimule artistiquement. En revanche, penser à un ciel étoilé de Via, je sais pas si on dit Via ou Via Selmins, ça, oui, ça, c'est une chose qui peut vraiment m'inspirer. Et sans doute parce que le lien avec tel plan ou telle scène va être peut-être plus indirect, plus mystérieux. Donc me donner un plus grand sentiment de liberté. Mais en tout cas, oui, la peinture compte énormément pour moi, aussi bien la peinture impressionniste, par exemple, que la peinture moderne, contemporaine. Et c'est vrai que je ressens d'ailleurs de plus en plus la marque enfin laissée en moi par la peinture. Et récemment, oui, j'ai été voir cette exposition de Via Selmins. C'était à San Francisco. C'est la deuxième fois que je la voyais, que je voyais ces tableaux exposés. La première fois, c'était à Beaubourg, je crois, il y a une petite dizaine d'années. Elle peint des ciels étoilés, des mers, enfin, de façon obsessionnelle. Et je crois que c'est d'ailleurs aussi ce caractère obsessionnel, répétitif, qui me touche dans sa peinture, donc depuis toujours. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'infini pour moi dans ces tableaux, ou en tout cas la quête de l'infini, qui est ce qui est, je pense, la quête quand même de tout artiste, consciemment ou pas. Enfin, et quant à Hockney, alors on a beaucoup parlé, enfin j'ai parlé de la mélancolie, et justement Hockney, il est absolument pas mélancolique, ou en tout cas il l'est pas. Il faut vraiment aller la chercher loin. Et peut-être c'est ça aussi qui me plaît, c'est-à-dire que pour moi il y a une joie immédiate de la peinture d'Hockney qui m'a toujours énormément séduite. J'ai aussi découvert, il y a quelques années, ce qui a renouvelé l'amour que j'ai de cet artiste, ça a été son travail sur les iPads et les iPods, et l'idée d'une œuvre dans laquelle on restitue le temps de sa création, c'est-à-dire que en fait donc c'était des dessins qu'il a fait, enfin des peintures, je sais pas comment il faut appeler ça, sur iPad et sur iPod,
dont il parle notamment dans cet entretien.
Voilà, et l'idée, c'est que quand c'est exposé, on voit le trait en train de se faire, donc l'œuvre intègre le temps intègre le geste, en fait. Et ça, c'est une idée que je trouve absolument géniale et qui renouvelle complètement pour moi l'idée de la peinture comme je le vois, comme une forme de réinvention d'une forme d'impressionnisme, mais d'impressionnisme d'aujourd'hui, puisqu'on intègre la vitesse, on intègre le geste, le coup de pinceau dans le temps, enfin par le biais du temps, c'est-à-dire du temps qu'il faut pour voir la peinture se créer, on l'intègre à la peinture. Et c'est une chose qui me comble de joie quand je le vois, qui me ramène à des émotions vraiment de l'enfance. Donc il y a eu ce moment-là, et puis il y a eu la découverte aussi à Bilbao quelques années après de ce qu'il a appelé ses road pictures. En fait, c'est très difficile à décrire, mais c'est une série de tableaux vivants qui sont des captations sur des routes qu'il a fait avec, je crois, 12 caméras posées sur une sorte de véhicule qu'il a créé lui-même et qui toutes vont filmer un même espace, par exemple un arbre ou une route en avançant très lentement, mais ça va restituer à travers 12 angles, enfin c'est 12 angles légèrement différents, puisque ce sont des hauteurs de vue légèrement différentes, vont constituer comme une sorte, là encore, de tableau mouvant, et qui est un tableau qui donc existe dans le temps aussi, c'est-à-dire c'est un tableau qui littéralement vibre, enfin bouge sur 3 minutes, mais ça ressemble pas du tout à du cinéma, ça n'a rien à voir avec un film, c'est vraiment de la peinture mouvante, vivante, enfin, et je garde un souvenir extrêmement fort de la découverte de ces tableaux qui ramènent aussi à un sentiment d'émerveillement face à la nature, qui est pour moi peut-être le sentiment le plus universel, ou en tout cas quelque chose que je crois que j'ai, cet émerveillement-là, je l'éprouverai toujours tant à tout âge de la vie, quoi.
Vous n'aimez pas les références littérales, peut-être au cinéma, quand vous travaillez, Mia Hansen-Love, mais malgré tout, on va écouter un autre cinéaste. Dans cette nuit, vous m'avez parlé de Jonas Mekas, que vous avez rencontré autrefois, je crois. On écoutera tout à l'heure un documentaire sonore qu'il avait réalisé en 2003 pour l'atelier de création radiophonique de France Culture. L'émission s'appelait « À Pétrarque », qui traversa les collines de Provence à pied. Et il s'agit d'un montage d'extraits du journal sonore de Jonas Mekas, tourné sur plus de 40 ans, des sons de New York, de promenades, de voyages, de moments de vie avec sa famille aussi, auxquels le montage, l'agencement, donne une valeur particulière, presque fétiche. C'est un travail qui, bien sûr, fait écho très fortement à son journal filmé, notamment à son tout premier film, Walden, sorti en 68. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rencontre avec Jonas Mekas, puisque vous l'avez, je crois, interviewé quand vous étiez critique pour les Cahiers du cinéma à l'époque?
Oui, je n'ai pas réécouté l'interview depuis et je serais sûrement pas très fière de moi si je le réentendais. Sans doute mieux pas que je le réentende, mais je garde un souvenir évidemment très très fort de cette rencontre. Néanmoins, j'avais découvert les films de Jonas Mekas depuis peu et j'avais été éblouie par ces films. Je connaissais rien au cinéma expérimental, ça ne ressemblait à rien de ce que j'avais pu voir au cinéma auparavant. Et cette idée du journal filmé, le fait qu'on puisse arriver à un tel niveau de beauté, de poésie, en simplement filmant sa vie au quotidien, c'était une chose qui m'a paru miraculeuse, mais finalement qui rejoint un peu ce dont on parlait au début de cette émission à propos du journal de Annie Ernaux, Se perdre. C'est-à-dire que je crois que j'ai toujours été touchée, attirée, enfin, comme que ce soit comme lectrice ou comme spectatrice, par les journaux, quoi. C'est vraiment l'idée du simple témoignage, garder une trace de la vie, enfin, de sauver des moments, et que cette mémoire-là, de certains moments, accroît le sens de la vie. Enfin, c'est une chose à laquelle je crois depuis toujours, et je pense que ça fait partie de ce qui me touche dans le cinéma de Jonas Mekas. Mais ce qui m'a marqué, je crois, enfin, la seule chose dont je me souviens de l'entretien, c'est de son insistance pour me parler du cinéma d'action et de l'importance des films d'action pour lui. Ce qui d'ailleurs, rétrospectivement, me fait penser à cette chose qu'on raconte toujours sur Bresson, qu'il adorait James Bond. Ou un, en tout cas un James Bond, je sais plus lequel. Il y avait cette chose aussi chez Jonas Mekas, enfin qui pouvait paraître surprenante pour un cinéaste, enfin qui incarnait le cinéma expérimental, de dire we need action, et c'était pas précisément ce que. Mais au fond, je comprends très bien maintenant, peut-être avec le recul, comment ces deux extrêmes peuvent se rejoindre dans le regard d'un cinéaste.
We need action, c'est sur cette belle phrase de Jonas Mekas qu'on va se quitter pour le moment. Merci beaucoup, on se retrouvera tout à l'heure au petit matin pour conclure cette nuit. Et pour le moment, place donc aux quatre émissions de cette seconde partie de votre nuit rêvée, Mia Hansen-Love. Dans un instant, l'émission consacrée à la French Touch, c'était en 1999 dans le cadre d'une série pour les chemins de la musique. Puis un entretien mené par Laure Adler avec le peintre David Hockney en 2011. Ensuite, le journal sonore, donc concocté par Jonas Mekas en 2003. Et enfin, Une vie, une œuvre, Anne-Marie Schwarzenbach ou L'ange inconsolable. C'était le titre de cette émission de Vinciane Moeschler, diffusée pour la première fois en 2018. Koridum, 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 madam, koridum, madam.